Marie Guévenoux s'envole ce matin pour Paris. La ministre déléguée aux Outre-mer a rencontré hier sur le territoire les maires, les groupes politiques et le monde économique pour prendre le pouls des préoccupations après 3 mois de crise. L'actualité internationale, 300 jours de détention depuis l'attaque du 7 octobre en Israël. Des otages sont toujours aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Et puis une prouesse diplomatique selon Joe Biden, un vaste échange de prisonniers a eu lieu en Turquie entre la Russie et l'Occident. Ça concerne 26 personnes. Le sport avec Maxime Grousset qui disputera la finale du 50 mètres nage libre des Jeux Olympiques de Paris. Le Calédonien s'est qualifié ce matin tout comme Florent Manaudou. Quant à Emma Terebo, elle a terminé à l'instant 4e de sa demi-finale sur le 200 mètres d'eau, juste devant Pauline Mailleux. Au classement des médailles, la France est 3e derrière la Chine et les États-Unis. Et puis on termine enfin avec la météo en Nouvelle-Calédonie. Le temps est gris, faiblement pluvieux pour aujourd'hui. Du côté des températures maximales, elles évoluent peu et restent légèrement inférieures aux valeurs de saison, comprises entre 22 et 24 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et elle a une actualité sur le territoire.
Oui, la ministre déléguée en charge des Outre-mer quitte la Nouvelle-Calédonie ce matin, mais en 36 heures de visite, elle n'aura guère vu que les salons de la résidence du haut-commissaire. Elle a passé sa journée d'hier en entretien, en rencontrant tour à tour les maires, le président du gouvernement, le monde économique et les groupes politiques, Léana Colombo.
Oui, Marie Guévenoux a débuté sa journée avec les présidents des deux associations de maires. Ils lui ont surtout parlé de la nécessité du rétablissement de l'ordre public. En réponse à leurs préoccupations, la ministre leur a annoncé l'envoi de forces supplémentaires en Nouvelle-Calédonie après les Jeux Olympiques et le versement dès le mois de septembre de la totalité de la dotation de l'État aux communes. C'est ce que nous a dit Pascal Vittori, le maire de Bouloupari et président de l'Association française des maires. De son côté, Wilfried Weiss, le maire de Koumac, a insisté sur la situation sanitaire catastrophique, notamment en province nord, où il n'y a plus que 8 médecins, alors que les centres hospitaliers de Koumac et Pointe-Imier ont fermé les urgences depuis hier soir. Et il a aussi évoqué quelques pistes.
On avait sollicité la réserve nationale, donc elle nous a dit que la réserve nationale allait être mobilisée à la réserve sanitaire nationale. Et je l'ai aussi interpellé sur les besoins que l'on a au niveau de certains médicaments que l'on ne trouve plus sur le territoire ou de certains matériels qui font défaut. Et là, j'ai demandé si on pouvait pas, suite à un courrier du président du conseil d'administration du CHM, solliciter l'Agence Santé publique de France qui, normalement, peuvent, dans ce genre de cas, pouvoir aider la Nouvelle-Calédonie. Elle a demandé à ce qu'on consulte le Medipol et le CHN pour qu'ils fassent remonter les besoins en médicaments ou en matériel de façon à ce qu'elles puissent, elles, solliciter l'Agence de santé publique France.
L'envoi de la réserve sanitaire et l'aide de l'Agence de la santé publique, deux pistes retenues par la ministre pour tenter d'améliorer la situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie.
Marie Guévenoux qui a ensuite brièvement quitté le Haut-Commissariat pour se rendre au siège du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie où elle a rencontré son président, Louis Mapou. Et de retour à la résidence, elle a ensuite échangé avec les maires du Grand Nouméa, dont les communes ont été les plus touchées par les violences insurrectionnelles. Ils voulaient d'ailleurs sensibiliser la ministre sur la nécessité de rétablir le plus rapidement possible l'ordre républicain. Et c'est le cas singulièrement au Mont-d'Or. Et le maire Eddy Le Courrieux a insisté auprès de Marie Guévenoux sur le blocage de la RP1 à hauteur de Saint-Louis.
La ministre était parfaitement au courant, elle a souligné le caractère exceptionnel du Mont-d'Or. Ça devient insupportable pour tout le monde, en particulier pour les gens qui habitent de l'autre côté. Moi, j'ai même fait à nouveau la proposition à la ministre de la construction de cette route dédiée là, au Mont-d'Or Sud, en passant par le bord de mer, sachant qu'il y a un certain nombre de financements qui vont déjà aller au futur centre pénitentiaire de plusieurs milliards. Donc moi, j'ai dit aujourd'hui, si on n'était pas capable de sécuriser définitivement le Mont-d'Or, il fallait trouver une solution pérenne et ça passerait par la construction de cette route. Savoir que depuis 2 semaines, l'axe est entièrement bloqué. J'ai appris qu'un certain nombre d'opérations de police avaient eu lieu, donc un certain nombre de personnes ont été arrêtées et que ça allait continuer pendant les prochains jours.
Les maires de Nouméa et de l'agglomération ont aussi parlé des difficultés financières de leur commune. Côté économique, justement, la ministre avait rendez-vous avec les représentants du monde économique pour évoquer les besoins des entreprises et les aides de l'État, Léana.
Le président de la CCI, David Guyenne, tenait d'abord à saluer l'action de l'État, son soutien économique et financier et son rôle de relais de propositions. Il a ensuite rappelé à la ministre que lors de son dernier séjour, elle avait vu des entreprises brûlées et saccagées et des Calédoniens en colère et terrorisés. Aujourd'hui, même si la situation est stabilisée, elle reste critique et la Calédonie a plus que jamais besoin de l'État.
Aujourd'hui, on a l'impression que la Calédonie a trouvé une certaine stabilité, mais elle a trouvé une stabilité dans une dégradation, en mode dégradé. Donc on a voulu lui dire qu'il fallait toujours évidemment considérer que la Calédonie était à la limite de l'effondrement économique, de l'effondrement social, et que le soutien fort, massif de l'État, notamment en termes de subventions pour les entreprises, doit continuer tant que nous n'arrivons pas à construire tous ensemble une relance économique, une visibilité politique, et puis un projet pour la Nouvelle-Calédonie.
David Guyenne, président de la CCI. La présidente du MEDEF fait la même analyse, mais pour Mimsy Délé, il s'agissait de poursuivre le dialogue régulier qui existe avec le gouvernement central depuis le début de la crise. La plupart des interlocuteurs de la ministre relèvent également qu'elle les a assurés que c'est le président de la République lui-même qui suit désormais le dossier calédonien.
Et dans l'après-midi, Marie Guévenoux a ensuite rencontré les groupes politiques du Congrès, en commençant par le groupe Les Loyalistes. L'occasion pour Gilles Brial d'exprimer l'impatience des Calédoniens.
C'était surtout pour nous l'occasion de rappeler que le président de la République est venu fin mai, qu'il avait donné 72 heures pour arrêter les blocages des indépendantistes et relancer les discussions, et que 70 jours après, il y a encore une partie de la population qui est bloquée et que les discussions n'ont pas repris. Donc il est urgent que l'État prenne des initiatives. Certes, il y a eu la dissolution, certes, le gouvernement expédie les affaires courantes, mais la Nouvelle-Calédonie se meurt aujourd'hui et on a besoin d'une intervention forte de l'État pour remettre les Calédoniens autour de la table, notamment les indépendantistes qui sont divisés et qui se font attendre, pour donner des perspectives aux Calédoniens, parce qu'on ne pourra rien reconstruire si les Calédoniens, les investisseurs, les familles n'ont pas de perspectives sur leur avenir.
Un message que la ministre déléguée en charge des Outre-mer affirme avoir entendu. Elle s'est ensuite entretenue avec la délégation du groupe Rassemblement, emmenée par Alcide Ponga, puis avec le groupe Calédonie Ensemble, avec le groupe UCF-LNKS et Nationaliste, puis avec le groupe UNI, avant de s'entretenir avec les élus de l'éveil océanien, qui ne forment pas un groupe au sein du Congrès. La ministre terminera ses entretiens ce matin en recevant dès 7h15 le président du Congrès Roch Ouamitan. Ce sera son dernier rendez-vous avant de quitter la Nouvelle-Calédonie au terme d'une visite qui aura duré 36 heures. Elle était arrivée mercredi soir et elle avait annoncé qu'elle souhaitait prendre une posture d'écoute. Elle s'était entretenue avec la présidente de la province sud, Sonia Bakès, avant d'échanger longuement avec les forces de l'ordre et de sécurité réunies au commissariat central de Nouméa. La ministre qui n'a fait quasiment aucune déclaration publique. Elle a seulement déclaré que les Calédoniens, avec l'aide de l'État, doivent retrouver les voies d'un destin commun.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Je vous donne tout d'abord la réponse à notre question d'hier. 84% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent que c'est dans le domaine de l'ordre public qu'ils attendaient surtout des réponses de la part de Marie Guévenoux, la ministre déléguée aux Outre-mer. Ils sont 16% à dire qu'ils attendaient surtout des réponses dans le secteur économique. Quant à la question de l'avenir institutionnel, elle n'est pas pour eux une préoccupation du moment. Voici maintenant notre question du jour. Êtes-vous favorable à l'instauration d'un jour de carence dans le secteur public, comme le propose d'ailleurs le gouvernement, avec pour objectif de maîtriser les dépenses de fonctionnement dans le secteur public? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Et d'ailleurs, on y reviendra sur l'antenne de Radio Rythme Bleu à 7h30, puisque vous le savez, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a adopté plusieurs textes relatifs à la situation créée par la crise insurrectionnelle. L'objectif étant de maîtriser les dépenses avec l'instauration, on le disait, d'un jour de carence, mais aussi la suspension exceptionnelle et temporaire des avancements. Un sujet dont nous reparlerons ce matin avec Christophe Coulson, le président de l'UTCFE-CGC, qui sera notre invité à 7h30. Et puis c'est Philippe Blaise, élu Les Loyalistes, président du MRC et premier vice-président de la province sud, qui sera ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur l'analyse qu'il fait de la situation de la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai, sur les urgences, sur les préoccupations et sur les solutions pour en sortir. Philippe Blaise, invité de Transparence, est donc à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. En attendant, il est 6h40, vous écoutez Radio Rythme Bleu, la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Ce sera juste après la publicité, avec notamment des difficultés pour les élèves du Mont d'Or. On en parle juste après ça.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
En panne de cash, marre du chèque, optez pour le portefeuille électronique CFP. Particulier, échangez de l'argent, remboursez vos amis, payez chez vos commerçants affiliés sans aucun frais. Simple, instantané, sécurisé et 100% gratuit. Commerçant, encaissez à moindre coût depuis votre mobile ou tablette et sans engagement. Si vous n'utilisez pas l'application, elle ne vous coûte rien. CFP, le portefeuille électronique qui vous simplifie la vie, sans frais. Rendez-vous sur www.cfp.nc pour plus d'infos et télécharger l'appli.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
En bref, tout d'abord du côté de Koumac, hier au cours de la nuit, une pelleteuse d'une société de terrassement a été incendiée. Elle était stationnée sur le chantier entre la station mobile et le corail. Le directeur de l'entreprise a porté plainte hier matin. Plus tôt dans la semaine, des engins de la société avaient déjà été endommagés lors d'un transfert. Toujours dans l'actualité aujourd'hui, à Marais, une personne portée disparue a été retrouvée saine et sauve. C'était hier matin. Les pompiers de Lille ont sollicité le COSENSE pour retrouver un homme de 28 ans qui avait été signalé disparu par sa famille. C'était mardi dans l'après-midi. Cette opération coordonnée par le COS a nécessité l'appui d'un puma des FANC. Écoutez les précisions de Nicolas Chaumard, le directeur du COSENSE.
Le COS a été sollicité par les pompiers de Marais concernant en fait un témoignage de la famille d'une personne qui était portée disparue sur le secteur de Marais au niveau de la baie de l'Allier. Donc le COS a coordonné l'opération de recherche maritime et a notamment sollicité le concours d'un puma des FANC qui se trouvait à Lifou au moment où on l'a engagé. Donc il a pu être rapidement sur zone et il a effectivement rapidement retrouvé la personne qui était assez loin de sa mise à l'eau initiale puisqu'il était au niveau du Cap Roussin dans l'eau mais en vie. Il était sur le platier en fait avec de l'eau à mi-hauteur le long d'une falaise et donc Puma a pu ensuite procéder à la récupération de la personne et a pu ensuite le ramener à l'aérodrome de Marais où ensuite la personne a pu être prise en charge par les pompiers et la gendarmerie.
Et en fait, l'homme serait parti nager un peu trop loin après une dispute avec sa famille.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h42.
Hier, plusieurs acteurs institutionnels se réunissaient au Mont d'Or pour discuter. À l'ordre du jour, Léana Colombo, les difficultés d'accès aux différentes structures scolaires dans la commune.
Et était notamment présent le vice-recteur Didier Vindatich, Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement en charge de l'éducation, Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge du dialogue social, ainsi que les chefs d'établissement des collèges et lycées de la commune. Premier sujet abordé, celui des transports dans la commune. On fait le point avec Valérie Bolo, adjointe au maire en charge de l'enseignement pour la ville du Mont d'Or.
Les réponses qui ont été apportées aujourd'hui ne sont que des pistes, mais tant que de toute façon la route de Saint-Louis sera bloquée, la solution, on l'aura pas. Donc il faut aussi trouver un moyen de sécuriser cette route et que les gens puissent passer. Alors on sait que ça va pas se faire peut-être dans l'immédiat, donc la raison de notre réunion d'aujourd'hui, c'est de proposer justement des solutions alternatives assez rapides pour que déjà dès la prochaine rentrée, les Mont-Doriens puissent se dire que voilà, on s'oriente vers des solutions et puis une amélioration du dispositif. On n'a pas attendu cette réunion, hein. Admettons qu'on envisage de proposer d'autres transports ou même de mettre à disposition des salles de classe. Il faut savoir combien d'élèves sont concernés, qui va venir, qui ne viendra pas, etc. D'ailleurs, cet état des lieux a déjà été fait, hein, puisque la mairie du Mont d'Or a mis en place, dans le cadre de la prévention jeunesse, un dispositif où un de nos agents va à la rencontre des familles pour demander très exactement la raison pour laquelle l'enfant ne s'est pas présenté à l'école.
Plus de 200 élèves sont concernés par ces difficultés d'accès. 130 élèves du collège de Boulary sont bloqués. Une quarantaine d'enfants de Saint-Louis. Et puis à Ploum, c'est le personnel qui rencontre le plus de difficultés.
Merci Léana Colombo. Il est 6h passé de 44 minutes. 300 jours de détention pour les otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. L'actualité internationale, ce sera juste après la pub et on parlera également de cet accord et de cet échange de prisonniers qualifiés d'historique entre la Russie et l'Occident. A tout de suite.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Mazda informe son aimable clientèle de l'ouverture de la concession de 8h à 15h à Magenta, rue Auguste Bénébig. Arrivage récent du nouveau Mazda CX-90, un autre monde, une autre dimension.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Matin avec l'actualité dans le monde, on retrouve Nicolas Legrand.
300 jours, voilà, 300 jours que les otages du 7 octobre sont aux mains du Hamas. Dans un contexte de tension exacerbée avec le risque d'un embrasement au Proche-Orient, les familles des otages craignent le pire pour leurs proches. Des manifestations en solidarité ont donc eu lieu dans tout le pays, Wilfried de Villers.
Des rassemblements à Jérusalem, Haïfa, dans le Nord et à Tel Aviv, où des milliers de personnes se réunissent en ce moment même sur la grande esplanade des Arts en plein centre-ville, surnommée Place des Otages depuis le 7 octobre. C'est là que se réunissent les familles, les proches des otages, et ce soir, tous appellent à un accord rapide avec le Hamas pour leur libération. Dean Teplitsky n'a pas de proches en captivité à Gaza, mais il tient absolument à participer à cette mobilisation.
Je rejoins des milliers d'autres personnes parce que c'est important de lancer un appel aux otages, de leur dire que nous soutenons un accord et devons le conclure avant que tous les otages ne soient déjà morts.
Il serait toujours 115 retenus dans l'enclave palestinienne. Leurs familles n'ont aucune nouvelle d'eux depuis 300 jours. Et les récentes opérations israéliennes contre de hauts responsables du Hamas leur font craindre pour la sécurité des otages et marquent surtout un nouveau coup d'arrêt dans les négociations pour un cessez-le-feu.
Vous savez, pour moi, il est plus important de ramener nos otages vivants que de tuer les dirigeants du Hamas ou tout autre responsable du 7 octobre. Je pense que nous avons une obligation morale envers les vivants bien plus importante qu'envers les morts.
Un peu plus tôt aujourd'hui, un groupe de manifestants a également bloqué une autoroute proche de Tel Aviv, là aussi pour protester contre l'inaction du gouvernement concernant la libération des otages.
Wilfried de Villers pour Europe 1. Israël qui pourchasse, on le disait, les cadres de l'organisation terroriste du Hamas. Après la mort du numéro 1 hier à Téhéran, on a appris ce matin la neutralisation du chef de la branche armée abattu le 13 juillet dernier à Gaza. Tandis qu'au Liban, le Hezbollah commémore les funérailles d'un commandant tué par une frappe israélienne. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'Israël est en train d'éliminer tous ses objectifs, Chloé Lagadou?
Ah oui, et d'abord, Mohamed Def, chef de la branche armée du Hamas, recherché depuis 30 ans par Israël. Il était l'un des architectes de l'attaque du 7 octobre, surnommé le chat aux 9 vies. Il avait déjà échappé à 6 tentatives d'assassinat. Autre ennemi d'Israël qui a trouvé la mort, Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas tué hier à Téhéran. L'homme de 61 ans était en charge des négociations de cessez-le-feu avec l'État hébreu. Et cette série d'éliminations démarre mardi lorsque l'armée israélienne frappe la banlieue sud de Beyrouth. La cible, Fouad Chokre, le plus haut commandant du Hezbollah, responsable, selon Israël, de la mort de 12 jeunes sur le plateau du Golan. Et sur la liste des cibles de l'État hébreu, reste encore Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, l'insaisissable tête pensante des massacres du 7 octobre, probablement retranché dans les tunnels de l'enclave palestinienne. Ce dernier est toujours considéré comme un mort en sursis par l'armée israélienne qui poursuit son objectif, éliminer tous les hauts responsables du mouvement islamiste.
Chloé Lagadou pour Europe 1. Et puis c'est l'un des plus importants échanges de prisonniers de ces dernières années. 26 détenus ont été libérés après un accord entre Moscou et plusieurs pays occidentaux. C'est le président turc qui l'annonce après avoir coordonné l'opération qui a nécessité 7 avions puisqu'il y avait 7 pays comme l'Allemagne, la Pologne ou encore les États-Unis. Écoutez la réaction de Joe Biden, le président américain. Il salue une prouesse diplomatique.
Bonjour. Et c'est vraiment un bon jour. Les 4 otages américains qu'on accusait d'être des espions ont été libérés et ont pu voler jusqu'en Turquie aujourd'hui. Et bientôt, ils seront à la maison. L'accord n'aurait pu être possible sans nos alliés et l'amitié. Ils se sont joints aux difficiles négociations. Aussi, les Russes ont libéré 16 prisonniers et 8 Russes seront également renvoyés chez eux. Ce n'est pas seulement à propos des États-Unis, mais aussi de rendre justice à travers le monde.
Et parmi les libérés, on compte le reporter américain Evan Jerkovic du Wall Street Journal, tout juste condamné à 16 ans de colonie pénitentiaire en Russie. Il est 6h50, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir notre page sport, évidemment consacrée aux Jeux Olympiques de Paris 2024, avec une bonne nouvelle côté calédonien. Maxime Grousset s'est qualifié pour le 50 mètres nage libre, pour la finale bien entendu. En revanche, pour Emma Terebo, c'est pas passé sur le 200 mètres d'eau.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Le service des bourses et de l'enseignement supérieur de la Province Nord informe les jeunes ressortissants de la Province Nord désirant poursuivre des études supérieures en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger que la campagne de demande de bourse 2025-2026 a débuté depuis le 1er juillet 2024 et s'achèvera le 31 octobre 2024. Pour effectuer cette demande, les démarches se font toujours en ligne bourse.province-nord.nc.
Ah, ces assurances! J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Info Matin avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et évidemment, notre page consacrée aux Jeux Olympiques.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et on va commencer ce matin par la natation, puisqu'on suivait tout particulièrement le 50 mètres nage libre. Au lendemain de sa 5e place en finale du 100 mètres nage libre, le Calédonien Maxime Grousset disputait sa demi-finale sur 50. Il a terminé 3e en 21 secondes 60 et il s'est d'ailleurs qualifié pour la finale. Écoutez la réaction du Calédonien à la sortie des bassins.
Je suis content, je gagne plus de 3 dixièmes sur mon temps. C'était ce qu'il fallait faire, je pense, pour entrer en finale. On va pas, je dis jamais, on va jamais vendre la peau de l'ours avant, parce que là, il y a encore des gros noms de la natation. Donc voilà, je vais regarder ça. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir su rebondir.
La réaction de Maxime Grousset entre les deux demi-finales, et dans l'autre, il y avait effectivement au moins un grand nom de la natation. Florent Manaudou, ça a été assez compliqué pour le Français. Il a terminé 5e en 21 secondes 64, mais il est lui aussi qualifié pour la finale.
Ça passe, hein. J'étais un peu dans le dur là depuis ce matin. Beaucoup d'énergie nerveuse qui sont passées ce matin, donc voilà, fallait faire le job ce soir. Je savais que ma demi était très relevée et il manque un peu d'énergie, mais une bonne nuit de sommeil et demain ça va être mieux.
La finale la nuit prochaine à 5h30 avec deux Français, le Calédonien Maxime Grousset, mais aussi, donc vous venez de l'entendre, Florent Manaudou. En revanche, mauvaise nouvelle, la Calédonienne Emma Terebo, mais aussi Pauline Mailleux, échoue à se qualifier pour la finale du 200 mètres d'eau. En fait, ça a nagé beaucoup, beaucoup trop vite dans la deuxième demi-finale. Après avoir fini avant-dernière en finale du 100 mètres d'eau mardi, la nageuse originaire de Nouméa ne participera pas à sa deuxième finale des Jeux Olympiques. En demi du 200 mètres d'eau, elle n'est pas parvenue à se classer parmi les 8 meilleurs temps. Elle a signé donc un temps de 2 minutes 9 secondes et 38 centièmes. Elle est pourtant finie avec cela 4e de sa demi-finale, juste devant Pauline Mailleux. Après son triplé en or, Léon Marchand, quant à lui, a franchi sans problème le cap des séries du 200 mètres 4 nage hier soir. On l'attend pour la demi-finale qui va s'élancer d'un instant à l'autre. On vous fera suivre évidemment les différents résultats dans nos rendez-vous d'information de ce 6-8 et notamment le mini-journal de 7h30 tout à l'heure. La première médaille du jour pour la délégation tricolore est en argent. À seulement 19 ans, Titouan Castric décroche la 2e place en kayak slalom. Seuls 2 dixièmes le séparent du médaillé d'or italien Giovanni Dengianromo. Ce crack de 19 ans avait pourtant pris un départ canon et comptait plus d'une seconde d'avance sur le meilleur temps avant la 13e porte. La suite s'est compliquée pour le kayakiste qui a moins bien négocié les deux portes suivantes et s'est retrouvé en retard sur le temps de référence. Malgré un bon finish, il doit se contenter de la médaille d'argent. Le Breton a tout de même offert à l'équipe de France de slalom sa 2e médaille après le sacre de Nicolas Gestin. C'était il y a 3 jours. En tennis de table, Félix Lebrun se hisse en demi-finale au terme d'un match épique. Le pongiste de 17 ans et 5e mondial est venu à bout du Taïwanais Lin Yunzhou en quart de finale. Il s'est imposé en 7-7 au terme d'un match d'une intensité folle. Dans le dernier carré, Félix Lebrun affrontera le Chinois Fan Zhendong, 4e mondial cette nuit pour nous. En boxe, Sofiane Omiya est le premier membre de l'équipe de France de la discipline à obtenir une médaille puisqu'il s'est qualifié pour les demi en battant au point le Hongrois Richard Kovacs en moins de 63,5 kg. En boxe, tous les demi-finalistes montent sur le podium. Et puis pas de miracle, malheureusement, pour Kevin Mayer, ça c'est un coup dur pour la délégation tricolore. Le décathlonien déclare forfait à la veille de la première épreuve. Il ne réalisera donc pas son rêve de faire les JO de Paris.
J'étais encore loin de pouvoir sprinter à 100%. Mais si j'allais à 100%, c'était sûr que ça pétait. À un moment donné, je suis pas là pour me donner un spectacle. Si je suis pas compétitif, ça sert à rien d'aller sur la piste. Je ressens un certain sentiment de fierté parce que j'ai tout donné jusqu'au bout. Voilà, ça fait depuis 25 jours aujourd'hui que je me bats comme un diable pour arriver là aujourd'hui. C'est la fin d'un combat, c'est aussi un gros soulagement.
Et on l'avait vu en pleurs lors de sa chute au meeting de Paris il y a seulement 3 semaines. Depuis, il vivait dans le doute. Hein. C'est peut-être l'épilogue d'une carrière particulièrement riche. À 32 ans, Kevin Mayer a régné sur le décathlon qui combine 10 épreuves en l'espace de 2 jours. Double médaillé d'argent aux Jeux Olympiques, double champion du monde. Il détient le record du monde de la discipline depuis 6 ans. Le Français n'aura pas été épargné par les blessures, mais il a toujours réussi à revenir grâce à un mental d'acier. On rappelle que Kevin Mayer s'était rendu en Nouvelle-Calédonie en décembre 2022 lors des Track and Sea Games. Il avait effectué quelques démonstrations devant les jeunes au stade Numa-Délai. En sport collectif, les handballeuses françaises ont terminé en tête de leur groupe. 4 matchs, 4 victoires pour les Bleus, comme ça c'est réglé. Dernier succès en date contre l'Angola la nuit dernière, 38-24. Les joueuses d'Olivier Crumble se sont donc qualifiées pour les quarts de finale mardi prochain. En basket, grâce à sa victoire sur le Nigeria 75-54, l'équipe de France féminine a validé son billet pour les phases finales des Jeux Olympiques. Les Bleus disputeront un dernier match de poule. Ce sera contre l'Australie dans la nuit de dimanche à lundi. L'objectif, c'est tout simplement d'arriver à la première place du groupe. Et puis en volley, chez les femmes, la France affronte en ce moment la Chine. Au tableau des médailles, un petit point. La France est actuellement 3e, je le disais, donc derrière la Chine et les États-Unis. 27 médailles pour le camp tricolore. 8 en or, 11 en argent et 8 en bronze.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et avant de refermer cette page sport et ce journal, jouons sur Radio Rythme Bleu.
De mémoire de jeu avec les stations chez les Pacifiques.
Avec votre carte fidélité, toujours des remises sur le carburant et plein d'autres avantages.
Et on vous gâte sur Radio Rythme Bleu grâce à notre partenaire. Vous le savez, chaque jour, on joue ensemble sur l'histoire des Jeux Olympiques. Ceux qui ont fait la légende, finalement, des JO, à remporter un bon de carburant de 5000 francs. Le principe du jeu est très simple. On vous pose une question dans le journal du matin et dans celui du midi, c'est la même question. Et à 17h45, dans le journal du soir, on vous donne la réponse et le nom du gagnant, puisqu'on va tirer au sort à 17h parmi les bonnes réponses pour trouver donc et désigner ce gagnant. Aujourd'hui, la question est la suivante. Quelle athlète française a été surnommée la petite fiancée de la France ? Si c'est Colette Besson, vous tapez JO1. Si c'est Christine Aron, vous tapez JO2. Et si c'est Laura Flessel, vous tapez JO3. Et vous envoyez donc votre réponse par SMS au 3146. Quelle athlète française a été surnommée la petite fiancée de la France ? Si vous pensez que c'est Colette Besson, vous tapez JO1. Si c'est Christine Aron, vous tapez JO2. Si c'est Laura Flessel, vous tapez JO3. Votre réponse par SMS au 3146 avant 17h, qui est l'heure du tirage au sort, pour trouver donc parmi les bonnes réponses notre gagnant. Et puis on vous donnera le résultat tout à l'heure dans le journal à 17h45.
Dans vos stations Shell et Pacifique, gagnez 3 Toyota Hilux, 730 cartes de carburant à 15 000 francs et profitez tous les jours de nos offres fidélité et des bons plans en magasin. Rendez-vous vite dans vos stations Shell et Pacifique et n'oubliez pas votre carte de fidélité.
Et pour être tout à fait complet dans ce journal, on termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin le temps sera gris et faiblement pluvieux sur la majeure partie du territoire. Sur le nord et le nord des Loyautés, le vent lui sera orienté au sud-sud-est entre 15 et 20 nœuds. Ailleurs, il soufflera au sud-sud-ouest, généralement compris entre 5 et 10 nœuds. Cet après-midi, sur le nord, l'est et les Loyautés qui conserveront un temps gris et pluvieux, il y aura des éclaircies qui reviendront lentement sur la façade ouest et le sud. Le vent orienté au sud-sud-ouest pour cet après-midi entre 5 et 10 nœuds. Sur le sud-ouest, entre 10 et 15 nœuds et sur le nord-ouest, entre entre 15 et 20 nœuds près de la pointe nord et au Loyauté. Sur la côte est, donc ce sera déventé. Les températures pour terminer, elles seront comprises donc pour cet après-midi entre 22 et 24 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.